Salut la commu.
Bonjour.
Bonjour. Et bienvenue dans Lemonade with the
Lemons. Et voilà, bienvenue.
Trigger warning, cet épisode va parler de troubles du comportement alimentaire.
Salut la commu.
Bonjour.
Bonjour Charlotte.
Ça fait dit-on longtemps, hein?
Bah oui, hein.
3 jours à peu près, hein.
Depuis le mental breakdown.
Voilà. Story time.
Alors, l'épisode que nous enregistrons aujourd'hui, nous l'avons déjà enregistré il y a 3 jours. Sauf que, pour une raison que j'ignore encore...
Deux petits problèmes se sont présentés à nous.
Le premier, c'est... l'épisode s'est enregistré avec le micro de mon ordinateur. Ce qui fait que... Clairement, on parlait dans un cul.
C'est bien résumé, moi, je trouve.
Et le deuxième problème, c'est que ça nous a achevé.
Ah bah, c'est bien résumé, ouais. Achevé, c'est le bon terme, je crois, ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc enregistré dimanche soir. On s'est ensuite séparés, chacune est allée chez soi. Enfin, t'es restée chez toi, déjà, finalement. Et moi, je suis rentrée chez moi, et on a communément fait un mental breakdown à distance.
Ouais.
Nécessitant entre autres des larmes, des antidépresseurs et beaucoup de Kleenex.
Des pâtes au ketchup pour ce qui me concerne.
Ah, moi j'étais incapable de manger après.
Bah, moi j'ai fait ce que je fais habituellement. Ah, j'ai mangé mes émotions.
Bah, moi j'ai pas mangé, ouais. Comme quoi, peut-être que les TCA sont résolus. Épisode est terminé, bonne journée. Et du coup, finalement, on est sur une deuxième tentative, à la fois au niveau du son, mais aussi au niveau... Et surtout, d'ailleurs, au niveau des émotions.
Ouais.
Ça rime, bim, bim. On voulait absolument aborder cette thématique. C'est un des premiers thèmes qu'on s'est dit qu'on aborderait quand on a parlé du podcast.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose dont on souffre toutes les deux, qui nous définit un petit peu aujourd'hui. Et c'est surtout une thématique qui nous tient à cœur parce qu'on a à la fois envie d'en parler parce que il y a une forme de mystification de ce que sont les TCA, et puis parce qu'on se dit que nous aussi c'est en écoutant des gens en parler qu'on a compris, qu'on s'est identifié et que ça nous a aidé à travailler le problème, donc c'était important qu'on l'aborde. Ce que je te propose, Salomé, c'est de nous donner la définition un petit peu clinique des TCA, puisqu'on va utiliser ce terme parce que dire trouble complexe pendant tout l'épisode, ça va être très chiant. Donc TCA, ce sera les mots qu'on utilisera. Puis-tu nous le définir?
Alors, les troubles des comportements alimentaires sont des perturbations caractérisées par une obsession de la nourriture, du poids et de l'apparence. Cette obsession affecte négativement la santé, les relations et la vie quotidienne. Il y a différents types, la boulimie, l'anorexie, l'orthorexie et l'hyperphagie.
Je trouverais intéressant d'expliquer de quel TCA nous souffrons. Nous souffrâmes, nous avons souffrême. Non.
Le bécherel en PLS.
Voilà. Moi, pour ma part, ça fait donc maintenant 13 ans que je vis avec de l'hyperphagie. C'est-à-dire que l'hyperphagie, c'est la même notion que la boulimie, c'est-à-dire qu'on se remplit, sauf qu'on ne se vide pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de se faire vomir, il y a aussi des gens qui utilisent des laxatifs.
Ouais.
Pour la boulimie, moi je ne me vide pas, c'est-à-dire que je mange à outrance jusqu'à un trop évident, mais c'est une sensation de compenser. Et toi, ma petite dame?
Moi aujourd'hui c'est à peu près la même chose que toi, mais plus épisodique, je pense.
Mm-hmm.
Où je lutte contre moi-même pour ne pas engloutir tout ce qui se trouve sous mes yeux. Au point de me rendre malade, parce que moi c'est à un point où en général je finis pliée en deux, parce qu'en plus je cumule avec une petite maladie qui est la colopathie fonctionnelle, qui fait qu'en plus de base j'ai mal au bide, donc combiné au TCA c'est compliqué, mais j'ai lutté pendant un petit moment contre la boulimie et l'anorexie. En fait j'ai eu des phases, ça n'a pas été diagnostiqué officiellement, je sais ce qui s'est passé, et globalement c'était de l'anorexie boulimie pendant plusieurs années.
La première chose à aborder peut-être, c'est le point de départ de chacune.
Mm-hmm.
La position de la nourriture dans nos vies et dans notre famille. Moi, me concernant, la nourriture ça a toujours été au centre un peu de mon existence, au centre des préoccupations en fait de mon entourage, de mes proches, de ma famille, de mes parents en particulier et de ma grand-mère. Dès l'âge de 4 ans, j'ai été soumise à des commentaires concernant mon poids, concernant ma quantité de nourriture. Par certains membres de ma famille, la nourriture, c'était un moyen de contrôle. Donc à la fois une forme de punition, mais aussi une forme de récompense. Et donc forcément une sorte de preuve d'amour, en fait. Si tu fais ce qu'il faut et si tu manges correctement, je te donnerai de l'amour. Donc déjà, ça crée un rapport hyper, hyper spécial à la nourriture et pas hyper sain, quoi.
Effectivement, ouais. Moi, j'ai pas de souvenirs aussi lointains, mais je dirais que de ce dont je me souviens, c'est que y a toujours eu un espèce de rapport assez ambivalent à la nourriture dans ma famille. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'extrêmement festif, lié au plaisir. C'est vraiment, je revois les grands repas de famille où on passe toute la journée à table, à manger, à profiter, et c'est la fête. Et pour moi, ça a toujours été ce truc un peu social lié à la nourriture, de, ouais. ça se partage. Et quand t'es en famille ou en entre amis et que tu fais la fête, bah t'as envie de manger des trucs un peu bon, un peu riche, un peu, enfin voilà, tu fais pas un repas de famille avec des haricots verts vapeur, quoi. Et à côté de ça, j'ai aussi grandi avec un entourage qui était souvent, même très 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 souvent au régime et en lutte contre la nourriture, en fait. Et avec ce truc de, il y a les aliments pour le week-end, pour la fête, et il y a les aliments pour la semaine. Et du coup, tout de suite, moi, j'ai intégré ce truc-là de diabolisation de certains aliments.
Oui.
Et de, bah, il y a des choses dont il faut se priver occasionnellement, parce que sinon tu grossis. Et du coup, j'ai intégré tous ces automatismes, et aussi ce truc de, bah, maigrir, c'est bien, grossir, c'est pas bien.
Très noir et blanc, quoi.
Ouais.
Et du coup, ça a commencé quand ?
Je pense que, de toute façon, dès que j'ai eu conscience de mon corps, j'ai voulu le changer. Je l'ai jamais trouvé bien. Je pense que j'ai commencé à avoir vraiment conscience de mon corps. Tu sais, ce truc où, quand t'es enfant, t'y fais pas trop gaffe. Hein, t'es en maillot de bain sur la plage, tu t'en fous, tu joues, tu fais des pâtés. Et puis, il y a le switch de « Ah, je grandis. » Et il y a une vraie prise de conscience de son corps. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, je m'aimais pas. Mais en même temps, quand t'as grandi dans un environnement où s'aimer, c'est pas normal, bah forcément, c'est pas inné. Hein. À partir de cette période-là, où j'ai pris conscience de mon corps, tout de suite, j'ai eu ce truc de, quand quelque chose va pas dans ma vie, automatiquement, je me disais, si j'étais plus mince, ça irait mieux. Et c'était une sorte de contrôle, peut-être, il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais du coup, je vais essayer de contrôler autre chose, et ce contrôle, il était exercé sur ce qui rentrait dans mon corps. Jusqu'au moment où il y a eu un switch complet. C'était l'été entre ma seconde et ma première. Mmh. Je m'en souviens très bien, j'étais en vacances avec ma maman et son compagnon de l'époque, et ma sœur. Et en fait, j'étais dans une période un peu compliquée psychologiquement avec mon copain de l'époque. Il y avait des embrouilles, des trucs de lycéen, tu vois. Mmh. Et en plus, il y avait, voilà, d'autres choses qui, personnellement, n'étaient pas au top. Et donc, comme à mon habitude, j'ai eu ce truc de, bah, si je suis plus mince, ça ira mieux. Tout est logique. Et sauf que là, je suis allée plus loin que d'habitude. Je me revois en sandales, parce que j'étais en vacances, c'était l'été, donc j'avais pris des robes et des sandales. Et du coup, je faisais des tours de jardin, en robe et en sandales, pour maigrir. Parce que voilà, dans ma tête, c'était logique.
Cohérent.
Et je me revois ne pas grignoter à l'apéro, faire hyper attention, etc. Et en fait, je suis rentrée dans cette spirale extrêmement vite. Et quand je suis revenue de vacances, et que je suis retournée chez mon papa, parce que mes parents sont séparés, et du coup, j'alternais, en fait, je faisais un mois chez l'un, un mois chez l'autre, et du coup, à la fin des vacances, je suis retournée chez mon papa, et il y a eu un soir où j'ai essayé de me faire vomir une première fois, j'ai réessayé le soir d'après, j'ai réessayé jusqu'au moment où j'ai réussi.
Oui, forcément.
Et ce qui est terrible, c'est que je me revois avoir une certaine fierté de me dire « Ah, j'ai réussi !» Sauf que j'avais enclenché un engrenage qui était en train de... qui, je ne le savais pas encore, allait me détruire.
Super.
Voilà. Et toi, ça a commencé comment ?
Moi, c'était l'été entre la troisième et la seconde. En fait, je revenais vivre en France, après avoir vécu quelques années en Italie. Et c'était aussi l'année du divorce de mes parents. C'était l'année où j'ai pris conscience de mon homosexualité aussi. Donc, une année vraiment mélangée de joie et de peine. Et donc je passe mes deux mois chez mes grands-parents, parce que mes parents gèrent leur vie chacun de leur côté. Et j'ai accès de manière plus libre à la nourriture que ce que j'ai chez mes parents, qui sont assez stricts et qui, tu vois, il n'y a jamais eu de Nutella chez moi, il y avait du ketchup une fois par an dans le frigo, enfin, tu vois, un truc un peu... On contrôlait tout ce qui était considéré sucré et gras. Et là, j'ai un accès non-stop avec une grand-mère qui, comme toutes les grand-mères, a effectivement une tendance à suralimenter ses petits-enfants, mais là, c'était dans l'extrême. Je pense qu'à l'époque, c'était son seul moyen, elle, de me rassurer face au divorce de mes parents. Sauf qu'aujourd'hui, bah, je me rends bien compte que, du coup, j'ai lié rassurance égale bouffe, forcément. Et donc, pendant les deux mois d'été, je n'ai fait que m'empiffrer. J'avais un accès à un supermarché qui était juste à côté. Et je n'ai fait que manger bonbons, chocolat de la glace en boucle. Mais à des quantités, enfin, je veux dire, humainement, encore aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais engloutir autant de sucre sans exploser. En fait, j'ai vécu à moitié la nuit parce que du coup, le sucre faisait que de me réveiller. Enfin, j'étais réveillée tout le temps, donc je dormais quasiment pas. J'évitais les repas à base d'excuses un peu pourries, les règles, les machins, les trucs. Et en fait, je ne faisais que m'alimenter de sucre. Et en fait, sur les 2 mois, j'ai caché tout ce que j'ai pu, comme j'ai pu, les papiers de bonbons, les papiers de sucrerie, sous le lit, j'en ai jeté par la fenêtre, j'en ai mis dans les plomberies. Enfin voilà, fallait pas que les gens sachent. Donc ça, c'était la première étape. Et puis en fait, sur les 2 années qui ont suivi, j'ai continué comme ça. C'est-à-dire que dès que j'avais un peu de temps, mon seul plaisir, c'était d'aller dans n'importe quelle marque de supermarché et puis d'acheter des bonbons, quoi. Quitte à voler de l'argent à ma mère. Maman, pardon si tu passes par là. Et vraiment, c'était tous les soirs, c'était tous les mercredis, c'était tous les samedis. C'était vraiment dès que j'avais un moment où je savais que j'allais être chez moi toute seule, j'allais manger, quoi. Et sauf que... ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette période-là, moi, tout ça, je ne le vois pas. C'est-à-dire que je suis en pilotage automatique pur. Je ne comprends pas pourquoi je prends du poids, vraiment. Au plus profond de moi-même, je ne comprends pas. Malgré mes tentatives, mes parents finissent par voir des papiers de bonbons, des machins, et je dément. C'est-à-dire que je dis que c'est mon frère et que c'est pas moi. Le pauvre, il a pris pour rien. Et puis un jour, tout me revient. C'est-à-dire qu'on a une discussion compliquée avec ma copine de l'époque où elle me dit peut-être t'es sûre qu'il n'y a pas un truc et tout. Et je lui dis que non et je m'énerve et je me sens m'énerver à outrance. Et le prend mal. Et en fait, j'ai eu un premier flash d'un épisode d'hyperphagie, puis un deuxième, puis un dixième, puis un centième. Et en fait, en 25-35 minutes, j'ai pris tous mes épisodes d'hyperphagie dans la tronche. Donc définitivement une des pires soirées de ma vie. Et en fait, j'ai fait un vrai déni de tout ce qui s'était passé. Et enfin, les 30 kilos que je venais de prenaient sens, les paquets que je retrouvais partout prenaient sens, le fait que tout mon argent de poche, je savais jamais où il allait, et je me disais, mais c'est pas possible, je deviens complètement con ou quoi. En fait, si, il y avait une raison, il y avait une explication, c'était ça.
C'est fou quand même.
Je pensais pas que c'était possible que ton cerveau vraiment se détache, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si pendant 2 ans une partie de mon cerveau était à côté, quoi. Et un jour ça revient un peu violent.
Tu m'étonnes.
Comment tes proches ils ont réagi à du coup ce qui était au début une vraie boulimie vomitive et qui s'est ensuite transformée par des petites phases sympatoches?
En fait, c'était... je pense qu'au début on n'était pas encore sur la boulimie. On était plutôt sur des... j'étais plutôt sur des phases restrictives. Ou au contraire, je me suis sous-alimentée pendant un petit moment. Et dès que je mangeais quelque chose que je considérais comme hors des clous, je me faisais vomir. Donc c'était pas tout le temps. J'essayais de faire attention parce que c'est pas une expérience très agréable. Donc j'essayais de faire attention pour pas avoir besoin d'en arriver là. Ça a duré quelques mois comme ça. Jusqu'à, je sais pas, peut-être octobre-novembre, ça avait commencé en août, ça s'est calmé. Et puis en février, je me souviens, j'avais eu une dispute avec mon copain de l'époque, et bon, c'est moi qui avais fait de la merde à cette époque-là. Et donc il m'adressait pas la parole, et forcément je le vivais pas bien. Et en fait, j'ai recommencé à ce moment-là à me faire vomir. Et sauf que là, ça a été le point de départ d'une vraie descente. Et ça s'est empiré. Ça s'est empiré au point que bah je... peu importe ce que j'avais mangé, finalement, ça ne pouvait pas rester dans tous les cas. J'étais dans un lycée où on pouvait faire de la musique. On avait une salle de musique accessible et moi, j'étais chanteuse dans deux groupes. Du coup, deux midis par semaine, je répétais avec mes groupes. Et du coup, bah, je ne mangeais pas à la cantine et je m'emmenais à manger. Et cette période-là, globalement, tout ce que je m'emmenais, c'était une pomme et un yaourt.
Et je mangeais ça, dis donc.
Que ça le midi. Et ça a duré de longs mois. Après, des fois, des phases où je m'arrêtais un petit peu, puis je reprenais. Mais ça s'est vu. Mes copines de l'époque ont remarqué. Je revois une copine me dire mais Salomé, t'as plus de sang. C'était vrai. je me souviens, je rentrais dans mes jeans de quatrième, alors que j'étais en, du coup, j'arrivais en première terminale. Et il y avait une partie de moi qui était en mode, c'est pas normal, et l'autre qui était en mode, c'est génial.
C'est fou.
Et mes parents, bah, j'essayais vraiment de le cacher, je voulais pas du tout qu'ils le sachent. Donc j'ai caché à ma famille cette période-là de ma vie, pendant longtemps. Jusqu'au moment où bah, tu passes le bac, je passais mon code, et en fait je me suis rendu compte que bah, c'était pas possible parce que j'étais au bord du malaise. J'ai pas eu mes règles pendant quasiment 5 mois, parce que bah, forcément le corps fonctionne pas. La pression académique, je crois, a fait que je me suis dit, hey, le bac, c'est peut-être un peu plus important que de rentrer dans ton jean de 3e.
C'est beau quand même.
Donc j'ai eu un moment de prise de conscience et j'avais une très bonne amie en terminale qui était au courant et qui m'a aidée, qui m'a accompagnée dans un centre médico-social et j'ai été me faire aider. J'ai rencontré d'abord des infirmiers qui ont été géniaux avec moi et qui m'ont vraiment aidée, à prendre conscience du problème, à essayer de voir comment m'accompagner. Puis après, ils m'ont transférée vers une psychologue de ce centre qui était mais nulle à chier. Bah, elle dormait en fait pendant, enfin, en tout cas elle fermait les yeux, je sais pas, parce qu'elle méditait, je ne sais pas ce que faisait cette dame, mais en tout cas
elle écoutait très spirituellement ce que
je
lui disais.
Elle en avait globalement rien à foutre de ce que je lui disais, donc elle m'a pas aidée longtemps, mais n'empêche que je suis sortie un peu de cette sous-alimentation que je m'imposais. Et sauf que bah, ce qui arrive, je pense régulièrement, c'est que bah, tu passes d'un extrême à un autre et que moi, du coup, je me suis suralimentée. Et comme bah, c'était quand même pas super ok, je me faisais encore vomir de temps en temps. Mais j'ai aucun souvenir, par contre, du moment où j'en ai parlé. Je suis quasiment sûre d'en avoir parlé à mon père via une lettre, parce qu'avec mon papa, à l'époque, on avait des rapports pas très existants.
Oui, et puis t'as une tendance à écrire des lettres.
Oui, c'est vrai. Et du coup, il me semble en avoir parlé, mais je me souviens pas de réaction, et je pense que globalement, à mon avis, il a juste pas su quoi faire de cette information. Mmh. Et ma mère, je pense lui en avoir parlé aussi, mais j'ai un vrai blackout de ça. Je ne me souviens pas de parler de ce sujet-là avec mes parents.
C'est ce que je te dis, le cerveau, vraiment, il te dit stop, réfléchis pas.
Donc, ouais, je me souviens juste d'en parler à mes amis proches du lycée. Mon copain de l'époque aussi était au courant. S'entourer des bonnes personnes, c'est bien.
C'est cohérent.
Toi, du coup ?
Alors, moi... Alors, mon père a eu la même réaction que lorsque je lui ai annoncé mon homosexualité, c'est-à-dire le fameux « c'est une phase ». Merci, papa. Ma maman a paniqué, et ma maman est quelqu'un de très rationnel, donc tout de suite, c'était OK, on t'entoure de manière... comment on appelle ça ? De manière... on va chez un médecin, on va chez un nutritionniste, on y va. Donc, je suis allée voir un nutritionniste qui m'a prescrit... un magnifique régime à base de poudre. J'avais 17 ans. Non. Ouais, c'est 17 ans.
Terrifiant.
Donc, ce qui faisait que dans la journée, j'ingérais 3 fois de la poudre mélangée à de l'eau avec différents goûts. Alors, vraiment, si je dois être très exacte, le matin, c'était chocolat ou vanille. Et l'après-midi, c'était des trucs affreux, genre pasta carbonara, chili con carne, mais en poudre.
C'est horrible.
Et du coup, le soir, c'était une omelette faite à base de surprotéinés en poudre, où en gros, ils te prennent qu'une partie de l'œuf, mais qui dissout. Enfin bref, c'est un enfer.
Et puis le truc chimique au possible, quoi.
Ah, mais puis dégueu. Donc, alors par contre, génial, hein. J'ai perdu 12 kilos en 7 semaines. Donc, trop stylé, yeah. J'en ai pris 40 derrière.
Quelle la dangerosité, enfin, pour le corps, perdre autant de kilos.
Bah, en fait, ce qu'on t'explique, c'est que, parce que du coup, j'ai été voir ce premier nutritionniste, puis j'en étais voir un, puis j'ai fait une deuxième étape 3 ans après, où en gros, en fait, on t'explique que si tu prives ton corps à ce point-là, tout ce que tu vas manger après, probablement pendant les 10 prochaines années, ton corps va le stocker, parce qu'il est terrorisé à l'idée que tu l'aurais pris à ce moment-là. Mm. Et oui, même mon corps est traumatisé. Yes. Donc voilà, donc il y a eu cette étape-là un peu rationnelle de ma maman qui dit ok, bah on va faire un truc factuel, c'est nutritionniste. Et après, il y a eu le truc de putain, elle perd du poids, trop cool, du coup elle va arrêter de surmanger parce qu'elle se rend compte qu'elle se sent mieux quand elle est plus mince. Mm. Donc du coup, à nouveau, on crée un lien logique, mais parfois compliqué à gérer, qui est nourriture égale poids égale valeur de soi. Et moi, je vivais ça de manière très chaotique, mais effectivement, tu perds du poids, t'es trop content, tu mets enfin les fringues que t'as envie, je me coupe les cheveux, je deviens la reine des goudous du lycée, c'est trop stylé, machin. Et puis, je me mets à faire, pour la première fois de ma vie, je me mets à draguer, improbable. Je tombe amoureuse et on tombe amoureux de moi, incroyable. Et puis t'es trop content, et puis sauf qu'au bout d'un moment tu te remets à manger. En fait, ton corps comprend pas ce qui se passe, c'est-à-dire que tu t'es arrêté de manger vraiment et tu mangeais des aliments en poudre, tu reprends, tu remets des aliments dans ton alimentation, mais en fait tu t'es privé pendant tellement longtemps que t'as qu'une envie, c'est de bouffer du McDo, donc tu fais que ça. Et donc tu prends ton poids x3 en l'espace d'un an. Donc en fait là, ton corps, après avoir vécu le plus sèchement possible, explose. Donc je te laisse imaginer l'état des marques sur mon corps aujourd'hui, d'une perte et d'une prise de poids aussi rapide en gros 4 mois et demi. Mon frère du coup a eu la première partie un peu je m'en tape, puis il a eu la partie je veux pas être comme Charlotte, et ces phrases là moi elles sont marquées au fer rouge dans ma tête. Et effectivement, il a fait exactement l'opposé, c'est-à-dire que très rapidement, quand il a commencé à grandir et à être ado, c'était sport et régime, sport et régime, sport et régime, tout le temps. Et puis il y a eu ma copine de l'époque qui, elle, a été une des raisons principales qui ont fait que j'ai compris ce qui se passait, qui m'a accompagnée de manière adorable en proposant des repas, en essayant au mieux, quand on était en apéro, on mangeait avec des gens, de me dire, quand elle me voyait en fait rentrer dans la phase de compulsion, de vraiment m'en mettre plein la gueule, quoi, me disait gentiment, attention, calme-toi, machin et tout. Et j'avais cette tendance atroce qui aujourd'hui, quand je repense à moi à ces moments-là, j'ai envie de me mettre des énormes claques, mais de m'énerver en fait, parce que de considérer que... ça comme une attaque de sa part, alors que ça en était pas une, mais à l'époque je le percevais pas comme ça.
Ouais, je comprends complètement.
Et tu deviens agressif en fait, ouais. Parce que ça touche pas juste à ce que tu vas mettre dans ton corps, mais en fait c'est comme si littéralement t'avais besoin de respirer et quelqu'un t'empêchait de respirer. Enfin, moi je le vis comme ça, c'est vital la compulsion.
Ouais, ouais, puis je trouve qu'il y a un. Enfin, et pourtant c'est ce que je te demande de faire pour moi aujourd'hui.
Ouais.
Et pour autant, ouais, moi ça a tendance à faire ressortir de l'agressivité, parce qu'il y a un peu ce truc de. Tu pointes du doigt qu'il y a un problème et il y a une partie de ton cerveau qui sait que ce que tu fais c'est pas ok. Et qui a pas du tout envie de l'entendre. Et quand quelqu'un te dit doucement, toi t'es en mode t'es en train de dire que j'ai un problème, t'es en train de dire que j'ai un problème.
Alors que Salomé, tu as un problème, c'est pas qu'un seul.
J'en ai beaucoup. Mais alors que bah là, faut juste dire genre oui, tu as raison, parce que
c'est ça.
Je vais finir plié en deux. Mais c'est.
Mais je pense que ça, on le même si on le vit pas, on le vit toujours pas hyper bien aujourd'hui, on le vit mieux parce qu'on a conscience que c'est. Que de l'aide, tu vois,
ouais.
Et qu'il y a derrière, il y a rien d'autre.
Oui,
que
y a pas de jugement.
C'est pas un arrête où tu vas finir grosse, s'arrête où tu vas te faire du mal en fait.
Ouais.
Et tu l'apprends ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, quand on me fait ce genre de commentaires, j'ai tendance à ne plus réagir. Avant, je réagissais un peu de manière brutale, mais ma copine de l'époque a été d'un soutien monstrueux, parce qu'en fait, tu te mets à redouter les moments où tu vas manger. À redouter les moments où tu vas être toute seule, à redouter d'aller faire des courses, alors que c'est des trucs du quotidien, enfin, littéralement, vraiment, c'est ce que tu fais tous les jours, quoi. Et du coup, quand on a commencé à vivre ensemble, elle a été OK pour dire, bah, c'est moi qui fais les repas, comme ça, c'est moi qui fais les quantités, c'est moi qui fais les courses, parce que tu sais que tu vas pas réussir à gérer, ou viens, je viens avec toi. Et ça, c'est top. Et je pense que c'est la réaction la plus saine à avoir. Après, il y a eu plein de gens autour qui ont eu des réactions plus ou moins constructives. Enfin, tu l'as vécu aussi. C'est à la fois soit de prendre pas vraiment au sérieux, c'est-à-dire du ouais, mais ça va, t'sais, on mange tous un peu trop, on a tous des moments où on mange plus. Ouais. Alors que là, on parle vraiment d'une maladie, et d'une maladie qui. C'est de la compulsion. C'est pas juste oh, je suis un peu triste, je vais aller manger une Ben & Jerry's comme dans les films romantiques, machin.
C'est ça.
C'est même
plus
si
grave que ça.
Ouais, voilà, c'est plus grave que ça, et c'est surtout l'état dans lequel tu te mets après est radicalement plus, surtout que du coup toi et moi on a ces super qualités intestinales, mais ça te met dans un état, et puis on parle pas assez de l'état psychologique, parce que l'état physique d'avoir mal au bide, bon, c'est un peu une punition, mais à la limite, finalement, si ce n'était que ça, ce serait pas si grave. C'est que tu rajoutes derrière une culpabilité, et en fait tu culpabilises d'avoir fait, tu culpabilises de pas avoir été chercher de l'aide, mais tu culpabilises aussi de te dire, si j'avais été chercher de l'aide, j'aurais entraîné quelqu'un d'autre dans ma connerie, parce que je l'aurais probablement envoyé chier.
Ouais.
Ses enfants, en fait.
Ah, mais c'est clair.
Je suis intriguée que tu m'expliques, toi, comment tu vois les conséquences des TCA sur ton quotidien, à la fois dans le in the past, but also really now.
En fait, il y a eu toute une période où j'ai eu l'impression de m'en être sortie. Il y a eu donc toute cette période du lycée, etc., où je me suis bien rendu compte que j'avais un souci. Arrivée en BTS, je suis passée sur une forme plutôt de boulimie. Puis j'ai arrêté de me faire vomir, donc du coup j'étais plutôt sur de l'hyperphagie. Et j'en ai pris conscience sur la fin de ma deuxième année de BTS. Et en fait, à ce moment-là, ma maman partait vivre à une heure de route. Elle emménageait avec son copain de l'époque. Et du coup, avant de partir, elle m'a dit « Je veux que tu vois quelqu'un avant que je parte, parce que c'est pas normal. » Et effectivement, j'ai eu cette prise de conscience de « Ouais, c'est vrai que c'est pas normal. » Et ce qui est drôle, c'est... Enfin, ce qui est drôle... Hilarant, Salomé. C'est que je faisais beaucoup, à l'époque, de story Insta et de posts, hein, juste de posts, parce que les stories n'existaient pas encore. Et oui, on est vieille. De posts Insta de ma bouffe. Mais tu sais, un petit peu comme... une fierté, alors que c'était un déni complet de Salomé, ce n'est pas normal de manger dans un même après-midi des crêpes, un burger, des pâtes carbo. Enfin, à un moment, non. Et en fait, ça m'arrivait des fois de rentrer du travail, parce que j'avais mon petit job étudiant, et je rentrais des fois du travail, je m'étais pris un McDo, j'avais pas faim, et je mangeais. Et ma mère a vu tout ça, et a fini par me dire, genre, si je puis me permettre, peut-être que t'allais voir quelqu'un. Et j'ai pris conscience du fait que, bah non, c'est pas normal. Et du coup, on est reparti sur un autre process, du coup, là, avec une psychologue qui m'a suivie longtemps. 5 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entrer dans une forme de guérison. Et en plus, j'ai emménagé avec mon copain de l'époque. Et lui, bah, il mangeait ce qu'il voulait, il grossissait pas. Donc la nourriture, pour lui, c'était juste du kiff. En y repensant, ça m'a énormément déculpabilisée. Parce qu'en plus, au-delà de pas se prendre la tête pour la nourriture, et pourtant, honnêtement, si je regarde les photos, je pense qu'effectivement, j'ai pris un peu de poids en emménageant avec lui. Mais j'avais beaucoup moins de pression. Je faisais très peu de sport à l'époque. Et on mangeait. Enfin, voilà.
Non, mais il a dédiabolisé la nourriture, en
c'est
fait.
Ça. C'était juste bah, du plaisir. On mangeait ensemble, on cuisinait ensemble, c'était cool. Et en plus, il m'a vraiment aidée dans mon rapport au corps, parce que lui, combien de fois il m'a dit « Mais tu sais, tu pourrais grossir encore, moi ça me dérangerait pas. » Enfin, c'était vraiment genre « T'es très bien comme t'es, et même si tu prenais du poids, ce serait top. » Enfin, vraiment. Et du coup, je me sentais juste bien comme ça, et j'étais en mode « J'ai pas besoin de faire plus que ça. » Même si j'ai quand même eu des périodes, on avait un vélo d'appartement, donc il servait plus souvent à poser les freins qu'autre chose. Mais,
classique, ça c'est un classique.
Et je faisais du vélo d'appartement à côté de lui, on avait un petit tout petit appart, je faisais du vélo d'appartement, lui était sur le canapé, puis il me tendait les croustilles fromage. Et ça, genre, va faire des efforts, moi. Mais en fait, ça me faisait juste rire. Et puis, j'ai fini quand même par aller voir une diététicienne, plus parce que j'avais envie de quand même reprendre en main ce rapport à la nourriture. Et je suis tombée sur quelqu'un d'absolument génial qui m'a vraiment aidée dans ce processus-là et qui m'a permis de vraiment dédiaboliser, qui m'a appris qu'il n'y avait pas de bons, de mauvais aliments, qu'il fallait juste écouter sa faim, que si tu voulais avoir tel poids et telle silhouette, mais que c'était pas ton poids d'équilibre, dans tous les cas, bah, c'était soit tu choisissais d'être heureuse avec un poids qui est un peu au-dessus que ce que tu... que celui que tu voudrais, soit tu ta femme toute ta vie, globalement.
Yes.
Le choix était vite fait. Et je me souviens de lui dire, j'ai fait un petit peu d'écart, parce que j'ai eu un repas de famille, puis avec mon copain, on allait au resto, et puis elle qui me regarde, qui me dit, mais c'est génial. Enfin, vous avez 20 ans, vous vivez, c'est super. Et je me dis, genre, ah ouais? Bah oui, c'est vrai, c'est quand on voit les choses comme ça, en fait, je vis. Enfin, c'est génial.
Du coup, c'est pas mal, finalement.
Donc, j'ai eu une période de mieux, quand même, une période où j'ai un peu dédiabolisé déconstruit plutôt, une période où j'ai un peu déconstruit tout ce que j'avais ancré en moi pendant toutes ces années. Mais on va pas se mentir, hein, ça laisse des traces, ça laisse des grosses traces, parce que même encore aujourd'hui, je pense que c'est des stratégies d'évitement en fait que j'ai. Déjà, je fais du sport beaucoup, beaucoup plus régulièrement. Depuis janvier 2020, je fais entre 3 à 5 séances de sport par semaine. Donc ça m'a vraiment aidé à reprendre le contrôle sur mon rapport au corps un petit peu, dans le sens où j'ai lâché prise par rapport à la nourriture, parce que je me dis, tu sais quoi, je fais du sport parce que ça me fait du bien. En fait, j'ai commencé à aimer le sport à partir du moment où j'ai arrêté d'en faire pour maigrir. Quand j'ai commencé à en faire pour ma santé mentale, c'est là où je m'y suis accrochée. J'adore faire du sport, ça me fait du bien, ça me fait me sentir plus forte. Mais ça m'aide aussi à me dire, écoute, je me dépense, donc j'ai besoin d'énergie, donc je mange. Et donc ça, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup, mais ça a ses limites aussi. Je l'ai vu quand je suis partie en voyage et que j'ai pas pu faire de sport. Sur la fin de mon voyage, je me supportais plus. Je me vois aller faire les boutiques et sortir de la cabine d'essayage en furiant et en disant à la personne avec laquelle j'étais, on s'en va, parce que je me supportais plus. Donc le sport a ses limites. Et j'ai tendance à préparer beaucoup en amont ma bouffe pour la semaine, parce que ça m'évite de faire des total craquages. Mais le plus compliqué encore aujourd'hui, c'est les grands repas de famille ou les brunchs qu'on fait beaucoup, parce qu'on est des bobos nantaises. Donc on se voit avec nos copains le dimanche et on fait des brunchs.
Et désormais, il y a des bébés.
Et il y a des bébés. Sauf que dans ces moments-là, moi, c'est toujours hyper compliqué. En fait, tant qu'il y a de la nourriture devant moi, je ne sais pas m'arrêter.
Tu vas manger.
Et je peux pas m'arrêter, mais psychologiquement, je suis en lutte. Et je crois que c'est devenu... C'est mécanique, en fait. Mais j'ai complètement intellectualisé le fait de manger, c'est-à-dire que je ne sais plus écouter mes signes naturels de faim, de satiété et de rassasiement. J'ai tellement lutté contre les signaux naturels de mon corps... que maintenant je ne sais plus écouter, je ne sais même pas s'ils existent encore. Enfin, j'arrive de temps en temps, mais ça reste hyper compliqué. Et c'est pour ça que des fois, je te demande d'enlever le paquet de chocobons de ma face, parce que sinon je ne le lâcherai pas. Et encore aujourd'hui, j'ai des périodes plus compliquées que d'autres, où c'est toujours cette notion de contrôle. Où il y a quelques mois, j'ai acheté un appartement. Et en fait, c'était une période un peu longue, parce que les travaux, parce que y a la recherche, il y a tout ça. Enfin, il y a la recherche d'abord, du coup, parce que c'est pas logique. Et ensuite, il y a à trouver, il y a à faire les travaux, il y a tout ça. Et c'était une période qui était hyper stressante. Et en fait, vu que je ne contrôlais pas tout ça, j'ai décidé de contrôler autre chose. Et j'ai une période où j'avais pas très faim, donc je mangeais pas le midi. Et en fait, quand la faim est revenue, j'ai eu beaucoup de mal à m'autoriser à remanger le midi, parce que j'avais intégré que non, tu manges plus le midi, donc tu manges plus le midi, quoi. Et des périodes de choc émotionnel, comme j'ai eu à la fin de ma relation toxique, j'ai perdu 5 kilos en genre 2 semaines, parce que j'étais incapable de manger, et j'ai réussi à me faire vomir à cette époque-là. Je l'ai fait genre 2 fois, je me suis dit, il a fait suffisamment de choses, tu vas pas te faire du mal en plus. Mais naturellement, c'est le genre de truc qui revient, et je pense que ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, c'est quelque chose qui potentiellement restera toute ma vie. Mais je célèbre les petites victoires. L'autre jour, je suis sortie de la salle de sport, j'avais faim, j'avais pas emmené de petit-déj, et je suis allée m'acheter un pain au raisin. J'ai pris en photo mon pain au raisin à moitié mangé à côté de mon ordi en mode not today, les TCA. Et j'étais trop fière de me dire waouh, j'ai eu faim, j'ai mangé. J'ai pas intellectualisé le truc, je me suis pas dit ok, mais du coup, est-ce que c'est pas trop gras, trop sucré, genre attends, parce que non, j'ai juste dit j'ai envie d'un pain au raisin, je mange un pain au raisin. Et waouh, ça fait du bien des fois.
Tu m'étonnes, Elton.
Mais c'est une lutte permanente, quoi. Mais je pense que tu peux en témoigner.
Moi, on en est rendu à un point où la lutte, c'est faire des courses, quoi. En fait, manger. Je prends aujourd'hui très peu, mais ça, on en a déjà discuté, très très peu de plaisir à manger. Parce qu'en fait, immédiatement, dans ma tête, c'est problématique. Il y a 15 jours, j'ai décidé de diminuer mon... Enfin, de me limiter à mes repas, en fait. C'est-à-dire de ne plus manger entre chaque repas. Ce qui était mon quotidien avant. Et en fait, du coup, vu que je limite et je m'impose, parce que c'est vraiment ça, de ne plus manger entre les repas pour, du coup, concentrer toute ma faim et travailler ma satiété autour des moments des repas, bah, je me suis retrouvée à même les moments des les repas pas vouloir manger. Parce qu'en fait, tu construis tellement ton cerveau en mode on ne mangera pas, qu'au moment où, naturel où il faut manger, même si t'as faim, tu vas pas y aller. Hier soir, par exemple, j'avais faim, mais j'ai pas mangé. Juste parce que ben, ma tête, elle est soit noire, soit blanche. C'est soit tu t'autorises à manger, soit tu t'autorises pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et du coup, ça, c'est encore très compliqué. J'ai aussi une difficulté à cuisiner parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire, parce que ça me confronte en fait quotidiennement à mes TCA. Mmh. Donc tous les trucs qui sont en fait assez naturels et qui sont normaux, et c'est le quotidien de tout un chacun, c'est-à-dire cuisiner, faire des courses, manger, c'est problématique. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas une journée où je ne suis pas confrontée à mes TCA. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à accepter, de me dire « Non, mais ça va, quand je mange trois fois des pâtes dans la journée, c'est pas très grave. » Tu vois, « Bah si, frère. Enfin, » Un, tu fais pas d'effort. Et deux, bah, tu donnes que du mauvais à ton corps, en fait. Et puis après, il y a eu l'intolérance au gluten qui a débarqué, donc problème résolu. Ouais. Mais c'est un peu l'idée. Après, en termes de conséquences, moi, elle est assez simple. C'est que j'ai perdu 12 kilos, mais j'en ai pris 55. À 20 ans, j'ai dépassé la barre des 100 kilos. Et à 25, j'ai passé la barre des 120. J'ai cru que j'allais mourir. Le jour où je suis montée sur ma balance, c'était écrit 120. Parce que pour moi, dans tous les scénarios que j'avais imaginés pour ma vie, celui-là, c'était le... Bah déjà, les 100, c'était le truc à pas dépasser. Mais ensuite, en fait, plus t'avances dans la prise de poids, plus il y a des paliers que tu t'infliges et que tu te dis, ça, c'est vraiment la dernière, c'est impossible. Non, non. Sauf que tu y arrives toujours, parce qu'en fait, les TCA ont pris le contrôle de ma vie. Et puis, il y a eu ce qui souvent prend la place après des simples, je mets des très grosses guillemets, TCA, c'est la dépression qui est venue m'accompagner, moi et mes plates-pattes. Et là, en fait, tu rentres dans un truc où tu manges pour moins souffrir, mais tu souffres du fait de manger, et en fait, tu rentres dans une boucle qui s'arrête jamais. Le petit déjeuner, aujourd'hui, pour moi, c'est un enfer, parce que j'ai qu'une envie, c'est de manger du sucre, mais je sais que si je démarre ma journée par le sucre, je lance mon taux de glycémie et du coup, c'est un enfer. En fait, le truc, c'est que on essaye de s'informer pour mieux gérer, pour être dans un meilleur contrôle et dans une meilleure gestion. Sauf que du coup, en s'informant, on apprend des choses. Et du coup, en apprenant des choses, ton cerveau intègre que du coup, il faut pas lancer certains mécanismes, sauf que tu as envie de les lancer naturellement parce que c'est ce que tu as toujours fait ou c'est ce qu'on t'a appris à faire. Et du coup, l'information scientifique purement de comment un corps marche, tu l'intègres. Et donc, dès que t'es dans des phases de restriction ou des phases de tentative de gestion, tu rentres dans une sorte de psychanalyse de tout ce que tu manges. Je veux pas que, tu vois, je veux jamais rentrer dans le truc de je calcule les nombres de calories et tout. Ouais. Enfin, ou Weight Watcher. Est-ce qu'on parle de Weight Watcher?
Nope.
Voilà. Et le principe même de compter les calories, tout ça, c'est pas pour moi, je le sais, parce que je suis dans trop de contrôle. Et je vais un peu faire ce que toi, tu faisais à l'époque, c'est-à-dire être fière quand j'aurais pas atteint mes calories, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas OK. Pareil, t'as bien vu la semaine dernière, je suis allée au sport. Quand je suis arrivée chez toi, je ne savais pas quoi manger. Et je trouvais ça... On a été faire un brunch la semaine dernière. Et oui, le retour des bobos. On a été faire un brunch juste après être allée faire du sport. Et pour moi, c'était complètement incompatible. C'est-à-dire que dans mon cerveau, c'était un énorme what the fuck de... Mais tu viens de faire en sorte de ne pas culpabiliser sur ce que tu manges. Là, tu vas manger dans un endroit où tu sais que tu vas manger plus que ce que tu devrais t'apporter. Et donc, mais mon cerveau, mais vraiment, j'ai failli m'asseoir devant le truc de brunch et dire, bah, je reste dehors, je vous attends. Alors que non, c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, toute ma notion de la nourriture est complètement déconstruite, sauf que j'ai essayé de me faire accompagner par la même diététicienne que toi, on peut le dire. Toi, ça a été hyper efficace sur toi. Moi, ça a été une catastrophe parce que c'était quelqu'un d'adorable et qui avait une volonté de déculpabiliser, ce qui était hyper efficace avec toi. Moi, ça a été une catastrophe. Me déculpabiliser, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle me mette des gifles. Donc j'avais envie de la secouer et lui dire, mais arrête de me dire que c'est bien. Mais parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, on m'a dit que de toute façon, quand je mangeais, c'était mal. Donc comment tu veux qu'un jour mon rapport change? Donc en fait, il faut tout déconstruire, plus déconstruire les infos scientifiques qu'on nous a données qui dépendent de tellement de statistiques sur le corps qui sont tellement différents en fonction des individus, en fonction de ce que tu as déjà fait traverser à ton corps. Le principe de nutritionniste, pour moi, il est complètement... Ça ne marche pas, c'est pas possible. De une seule personne qui voit 10 000 types de corps différents va réussir à te trouver une solution magique. Impossible. Et en fait, j'en ai parlé beaucoup aussi dans mes thérapies et autres. Et en fait, Alors eux ils te font le lien hyper clochique de mais c'est vos parents qui vous ont dit que la... oui mes parents m'ont dit que la nourriture c'était mal quand j'avais 3 ans, oui après c'est devenu un problème, oui mais ça je l'ai travaillé, ouais. Je leur ai rébalancé dans la gueule quand j'avais 17 ans parce que j'étais très en colère, ensuite on s'est disputé, ensuite on s'est rabiboché, aujourd'hui je sais qu'une partie effectivement vient d'eux mais je leur en veux plus, ouais. Eux sont conscients de ce qu'ils ont déclenché.
Puis souvent ils te transmettent des choses avec lesquelles eux-mêmes luttent.
Bah oui complètement. Donc, et ça aujourd'hui je le vois.
Tu le comprends et limite des fois t'es en mode bah je suis désolée pour vous parce que oui. Moi je le déconstruis et moi je m'en sors mais potentiellement vous le garderez à vie quoi.
Et vous le garderez à vie parce que vous n'êtes pas dans une capacité de comprendre et de se laisser la place de comprendre suffisante, tu vois. Nous on a l'avantage d'être dans l'ère de la thérapie, du self-awareness, du machin,
ouais,
du truc.
La santé mentale.
Mais en tout cas, moi, je pense que de nous deux, je suis celle qui est le plus loin dans son processus de guérison. Loin de la guérison, surtout, en fait. Moi, je lutte vraiment constamment, ce qui n'est plus ton cas. Et ça, je trouve ça... je te l'ai déjà dit, mais moi, tu me donnes beaucoup d'espoir parce que je vois qu'il y a une partie de toi qui, même si, effectivement, tu considères que c'est que des manières de gérer, moi, je considère que ce que tu as créé aujourd'hui avec le sport, avec le meal prep, avec... les shakers de protéines et compagnie, c'est incroyable parce que même si ça te sert à faire des margaritas, ça te sert aussi à gérer aujourd'hui ton quotidien.
Ouais.
Moi, mon quotidien, il est ingérable. Il y a tout un travail à faire. Et je trouve aussi important d'en parler dans ce podcast avec deux postulats différents. C'est-à-dire, ouais. Toi, t'es dans une phase plutôt positive. Moi, je suis encore au fond du gouffre, tu vois. Et c'est ma trademark, si vous me cherchez, Charlotte au fond du gouffre.
On en fera des stickers.
Et puis aussi, on en avait parlé, mais la compulsion, moi, chez moi, c'était la colère. C'était gérer la colère contre la vie, contre la société, contre moi-même, contre mes parents, contre l'homophobie, tout ce que tu veux. Et encore aujourd'hui, à chaque moment de frustration, j'ai envie de bonbons, à chaque colère, ouais. J'ai envie de chocolat.
Je pense que toi comme moi, on mange nos émotions, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et moi, j'ai toujours ce truc-là aussi, c'est que triste, bah, peau de glace. Célébrer quelque chose, je peux pas célébrer en mangeant du riz et des légumes. Si je célèbre quelque chose, c'est pizza. Et j'associe la nourriture à des événements et à des émotions. Et du coup, c'est un réconfort en fait. Mais le terme manger ses émotions chez moi est très vrai.
Ah bah non, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et le problème, c'est que on est hypersensibles toutes les deux, diagnostiquées sérieusement.
C'est les psy qui l'ont dit.
Et du coup, ça fait beaucoup d'émotions à bouffer, tu vois.
Ça fait beaucoup de choses. Je veux dire, on est hyper sensible. On a des problèmes d'intestin.
Non, c'est
on
trop.
On a des TCA. C'est moi. Mais au moment de la distribution des problèmes dans la vie, je pense qu'on en a eu un petit peu trop.
Les cartes ont été mal réparties.
Même si l'hypersensibilité, ça a du bon des fois. Peut-être qu'on en fera un épisode.
Probablement. Mais je voudrais quand même. Parce que ça paraît très négatif comme ça, mais t'as parlé de petites victoires. Moi, même si c'est un meal prep dans la semaine, c'est une victoire. Si c'est une journée où je sens que j'ai mangé à ma faim, mais pas plus, c'est une victoire. Alors, ça arrive jamais. Enfin, ça arrive une fois tous les trois semaines, mais c'est une victoire. Le fait d'avoir réussi à reprendre le sport est exactement dans la même notion que toi, pas pour perdre du poids, mais juste parce que je me suis rendu compte que du coup, je gérais mieux ma colère et mieux ma frustration, et que du coup, j'allais moins compulser.
Ouais.
Bizarre comme mot utilisé comme ça. Mais moi, je disais comme ça. Et aussi, en vrai, une des plus grosses victoires aujourd'hui, c'est à la fois de... c'est un peu ce que représente ce podcast, c'est d'avoir réussi à le comprendre, l'analyser et être capable aujourd'hui d'en parler à mes proches pour qu'ils comprennent, à mes amis pour qu'ils me soutiennent et avec moi-même, c'est-à-dire avoir cette discussion constante de « Ok, tu culpabilises parce que là, t'as fait une crise d'hyperphagie. Viens, comment on gère la culpabilité pour pas derrière relancer une deuxième crise, une troisième et faire une boucle qui s'arrête jamais. Et ma plus grosse victoire par rapport à ce sujet là c'est d'avoir trouvé quelqu'un comme toi qui m'accompagne beaucoup parce que on sait TMTC comme diraient les boomers que nous sommes et d'avoir aujourd'hui compris que compris être en cours d'acquisition de poids pas égal valeur de soi. Ça fera l'objet d'un podcast qui va bientôt arriver, mais moi, je ne veux plus jamais considérer que un crush m'a mis un vent parce que je suis grosse, quoi. Plus jamais, je veux entendre que mes parents m'aiment un peu moins que mon frère parce que mon frère et plus maigre, tu vois. Je veux plus que mon cerveau ait ces réflexions-là. Alors, ça arrive encore, tu l'as bien remarqué. Mais je veux plus que ça arrive. Et d'avoir cette conscience-là, c'est une victoire fondamentale, quoi. Et ça, je ne l'ai eu qu'en ayant des gens avec qui je suis capable d'en parler et qui mettent des grosses tartes dans la tronche.
Mais tu sais que t'es la première personne à qui j'ai osé dire, s'il te plaît, enlève le paquet de chips. Mais parce que je sais que tu vois, je vois ton regard dans ces moments-là. Et au début, c'était compliqué parce que je me sentais en... Bah, tu sais, je me disais, elle voit. Oh là là, elle voit.
Bah oui, c'est horrible.
Et pour moi aussi, c'est une victoire d'être capable de te dire, genre, s'il te plaît,
tu sais... Aide-moi, en fait.
Aide-moi. Parce que je suis pas capable de le faire toute seule. Et ça fait du bien.
Eh putain, c'est bon, c'est bon ce qu'on fait quand même.
Attention. Non, mais de savoir que t'as quelqu'un qui comprend en face, qui juge pas et qui veut juste aider...
Mais c'est surtout ça, c'est, tu juges pas.
Ouais.
Parce que tu sais ce que c'est. Mmh. Tu sais que c'est pas. Oh, elle a une petite tendance à toucher un peu trop le sucré, la bonbonne. Non, c'est pas ça, tu vois. C'est. Elle est malade, ça partira jamais de sa life probablement, et toute sa life elle aura besoin que quelqu'un lui rabâche, arrête de bouffer des chocobons.
Ouais.
Et bah c'est ok. En fait, c'est ok.
Oui.
Le principe même, en fait, de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est. Le TCA, c'est ok.
Oui, c'est clair.
C'est vraiment notre mot favori. Tout est ok.
C'est ok.
Enfin, tout est ok ou pas, du coup. Mais ça, c'est hyper ok. Avoir des TCA, c'est ok. Demander de l'aide, c'est ok. Et il y a une fierté. C'est que peut-être que même si une personne écoute cet épisode et se dit « Ah, putain, peut-être je peux me faire aider. Peut-être je peux avoir ça. Peut-être machin. Mm. » Ou peut-être juste « Viens, j'essaie de trouver une personne dans mon entourage qui peut m'accompagner. » À pas manger la chips de trop, le chocobon de trop, la pâte de trop pour me faire vriller du côté obscur de la force, quoi.
Bah, c'est clair. Parce que c'est hyper compliqué de gérer cette espèce de ligne un peu invisible de je suis dans le plaisir et je kiffe parce que là j'ai faim et je vais me faire plaisir et des fois je vais manger un petit peu trop, mais parce que voilà, j'étais contente, j'étais au resto, j'étais avec quelqu'un que j'aime, donc on s'est pété le bidou, c'était génial. Et là, je mange pour les mauvaises raisons.
C'est ça.
Et je sais que avec toi, j'ai cette bienveillance. Enfin, de ta part, j'ai cette bienveillance plutôt. Il y aura pas ce regard-là si tu me vois me demander un supplément Minster sur mes frites parce que tu sais que c'est juste moi et que j'aime manger et que j'aime le fromage. Mais il y aura.
Je te dirais juste que tu vas puer de la gueule. Hein, c'est
Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ?
Non.
Par contre. Tu sauras, quand je suis un peu trop proche de la table avec le paquet de chips en face de moi, que...
Il faut enlever le paquet de chips.
C'est ça.
Ou toi. Mais en tout cas, il y a un objet qui doit partir.
Vous êtes le maillon faible. Au revoir.
Je crois que la meilleure conclusion que je pourrais faire de cet épisode, c'est que le premier enregistrement a été catastrophique.
Ouais.
À la fois de manière technique, mais aussi de manière émotionnelle. Et... Je me rends compte que enfin, en tout cas, c'est ma perception, tu me diras si t'as la même. Ce deuxième enregistrement est beaucoup plus paisible.
Ouais.
Parce que je pense que la première fois, déjà, on s'est dit des choses qu'on s'était pas dit.
Oui.
L'une et l'autre. Et du coup, il fallait réceptionner ce que l'autre racontait.
Mm.
Qui forcément fait écho à notre propre histoire. Enfin bref, le classique. Et parce qu'aussi, on a pris conscience qu'on faisait cet épisode pour des raisons qui nous tenaient à cœur. Que c'était pas juste... Attends, mais il y a quoi de stylé à raconter sur ma life, tu vois ? Et enfin, de stylé. Super.
Oui. De dramatique. Hein.
Voilà. Je pense juste que une partie de nous avait vraiment besoin de faire cet épisode et que c'était pas juste une envie.
Ouais.
Et de devoir y revenir une deuxième fois, ça nous a montré qu'on en avait vraiment envie.
Mm.
Et bah, c'est un peu ce qu'on essaye d'appliquer sur nos essais aussi, c'est que si la première épreuve et la première façon de marcher, elle marche pas, bah viens, on essaye une deuxième. Mm. Tant qu'on le fait ensemble, ça roule, quoi.
Together,
everyone. Est-ce qu'on peut finir mieux que sur du High School Musical ?
Je ne pense pas.
Allez, bisous la commu.